J'étais extrêmement fatigué. Et l'altitude aussi, bah le souffle, on n'a plus de souffle. Rien que lever la jambe, c'est un effort. Donc il faut faire des tout petits pas, il faut juste se concentrer sur ses pieds. Et c'est vraiment un pas après l'autre. Et en plus c'est raide, hein. Il y a des endroits où c'est vraiment très raide. Il faut y aller doucement. Voilà, il faut pas forcer. Mais l'effort physique, il est quand même intense. On était un groupe de 4, on faisait le Mont Blanc. Là, il faisait beau, mais il faisait extrêmement froid. Je pense qu'il faisait moins 20. Il y avait du vent et je pense qu'en ressenti, je sais pas, c'était moins 25, moins 30. Donc il faisait vraiment très, 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 très froid. Certes, j'avais froid aux pieds, mais je me suis pas rendu compte que c'était à ce point-là. Dans la voiture, déjà, je les ai frictionnés tout le retour. Puis j'avais plus aucun ressenti. J'arrive à Lyon, je les mets un peu dans l'eau tiède pour voir si ça réagissait. Puis je sentais plus rien, je sentais plus mes doigts de pied en fait, les 10 doigts de pied. Donc je vais aux urgences et je pensais qu'ils allaient me rironner aux urgences, que j'avais rien. Et en fait, j'ai été hospitalisé une semaine. Je me suis pas douté que c'était des engelures. Bon, ils m'ont pas dit tout de suite, mais ils ont eu peur, hein. Ils ont vraiment eu peur, ils ont cru qu'ils allaient devoir me couper les doigts de pied. Activité extrême, je sais pas si c'est extrême, mais en tout cas je fais des activités plein air depuis que je suis adolescent. Donc j'ai commencé par faire de la spéléologie, du kayak, de la montagne, du canyoning, du ski de randonnée.
Mayday.
Je m'appelle David, j'ai 44 ans, j'habite à Lyon et je suis professeur des écoles.
Rencontre.
Eh ben, le ski de randonnée, c'est tu prends tes skis, tes pots de phoque, donc c'est toi qui montes, tu n'utilises pas les remontées mécaniques. Les départs peuvent se faire dans les stations de ski, mais souvent on évite. Et donc on est dans loin de tout, assez isolé. On monte, on fait des sommets et puis après on redescend à ski et on enlève les pots de phoque. Alors les pots de phoque, c'est ce qu'on met pour monter en fait, ça permet d'accrocher à la montée. Et sans ça, on pourrait pas monter ou il faudrait déchausser les skis. Donc on met les pots de phoque sous les skis. Alors c'est plus des pots de phoque, maintenant c'est synthétique. Après, quand ça devient trop raide, là on peut plus monter avec les skis. On met les skis sur le sac à dos et on met des crampons si vraiment c'est trop raide. Je vais te montrer mon matériel de ski. Donc le matériel de sécurité utilisé, c'est Arva pelle sonde. Le Arva, c'est appareil de recherche pour les victimes en avalanche.
Donc ça ressemble à un petit boîtier,
voilà,
en plastique, c'est électronique.
Ça. Ouais, ça a une portée de 40 mètres à peu près. Plus t'es loin de la personne et plus ça va faire des sons lents. Donc tout, tout, tout. Et plus t'es proche, plus les sons vont être rapides. Donc ça fait faire tout, 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 plus t'es proche. La pelle. Donc il y a un manche aussi que tu clipses. C'est ça la sonde, je te montre. Donc tu vois, plié, ça fait 50 cm. Donc une fois que l'Arva a indiqué le point le plus proche de la victime, eh ben, il faut sonder avec cette barre métallique qu'on enfonce dans la neige. Ça fait 3 mètres une fois que c'est déplié. Et donc ça permet de toucher la victime. Ça c'est le sac ABS. En fait, il y a deux bonbonnes. Là, c'est assez lourd en fait comme sac, hein. Et ça déclenche deux coussins qui vont se gonfler immédiatement et qui vont normalement me maintenir en surface de l'avalanche. Quelqu'un qui est pris dans une avalanche, son espérance de survie, elle est très forte les 15 premières minutes. Et après, ça baisse très 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 vite. Donc ça veut dire que t'as pas le temps d'appeler les secours, c'est à toi de sortir ton copain en fait. Plus on est nombreux, mieux c'est, parce qu'il y en a un qui fait la recherche en Arva, il y en a un qui prépare l'appel, il y en a un autre qui prépare la sonde. Mais si t'es tout seul, il faut tout faire. Tout seul. C'est plus stressant forcément. Je suis parti faire du ski de randonnée, on était un groupe de 6-7 personnes. Donc on est parti faire une randonnée sur 3 jours. Les deux premiers jours, grand beau temps, tout allait bien. Et le troisième jour, on avait dormi dans un refuge à 3000 mètres d'altitude à peu près. Et donc on était vraiment loin de tout.
La dépression responsable de toute cette agitation, de ces chutes de neige, se décale vers
le matin, on part assez tôt et là il y avait du vent qui soufflait très très fort.
Attention au risque d'avalanche qui sera
10h30,
élevé.
11h, c'était la tempête. Le vent qui soufflait en rafale, je pense à 120, ouais, au moins 120 km/h. Les nuages qui commençaient à arriver, la neige qui se soulevait, donc c'était une ambiance quand même stressante. Et puis on est arrivé à un col, et là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Donc en plus il y a eu des loupés dans le groupe parce qu'il y a quelqu'un qui est descendu au lieu d'attendre tout le monde, qui a commencé à descendre. Et soit on continuait, soit on faisait demi-tour, on retournait au refuge. soit on descendait, mais on n'avait pas la carte parce que on était côté Italie, c'était dans les Hautes-Alpes. On ne savait pas trop sur quoi on allait tomber si on descendait. Donc on a décidé de faire demi-tour. Mais on a quand même dû aller chercher les deux personnes qui étaient descendues de 200 mètres. Donc après, on a dû tout remonter dans la neige où on s'enfonçait. Là, pour le coup, les pots de phoque, j'arrivais plus à les mettre parce qu'avec le froid, le vent, elles tenaient plus sous mes skis. Moi, je suis remonté en crampons, ce qui n'était pas facile. Ensuite, on a reskié un petit peu. Il y avait un petit peu de descente. On était en plus avec... il y avait une ou deux personnes physiquement et moralement qui commençaient à craquer. Donc là, c'était vraiment compliqué à gérer. J'étais en mode survie. T'es quand même, enfin moi, j'étais dans cet état d'esprit, quoi. Je me dis, de toute façon, maintenant, on a décidé de revenir au refuge et il faut qu'on y arrive parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, l'autre optique, c'est de dormir dehors, mais avec la tempête, faut faire un trou dans la neige. Ça peut se faire, mais c'est quand même vraiment pas confortable. Ouais, c'est ta vie qui est en jeu, quoi. Donc il faut y arriver. Et puis après, il faut aussi gérer ceux qui sont plus en difficulté. Tu les laisses pas tout seuls. Et ben, on s'est entraînés quand même. Le groupe, il est resté quand même solidaire, heureusement. Et il y avait les deux personnes qui arrivaient pas. Et ben, on leur a porté leur sac. On a fait des allers-retours pour qu'elles montent, parce qu'on n'allait pas les laisser non plus. Donc il y a tout ça qui est en jeu. Mais ce qui compte, c'était d'y arriver parce que t'as pas le choix. On a froid, on est fatigué, mais en fait, je pense qu'il y a l'adrénaline qui porte aussi. Tant qu'on n'est pas au refuge, on est porté, quoi. On a de l'énergie quand même en nous. Je savais que personnellement, je pouvais y arriver et que les autres aussi. Bon, au final, on a réussi à tous revenir au refuge. On arrive au bon moment parce que là, la météo, elle devenait vraiment catastrophique. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est vrai que le leader du groupe, je pense donc lui se sentait responsable, c'était lui le plus techniquement, le plus performant, et celui qui avait le plus d'expérience aussi. Ben, quand on est arrivé tous au refuge, lui il est arrivé en dernier, je sais pas s'il a craqué, mais il s'est mis à pleurer. Voilà, je pense qu'il s'est senti soulagé. On a passé la nuit dans le refuge. En fait, on savait pas trop. On se demandait si la tempête allait durer une nuit, deux nuits, trois nuits. Donc, on savait pas combien de temps on allait être bloqué dans le refuge. On n'avait pas beaucoup de nourriture. Et puis, le lendemain, il y avait toujours autant de vent. La météo était claire. Donc, on a décidé de revenir, de rebrousser totalement chemin. Donc, en une journée, là, on a réussi à retourner à la voiture. T'es formé et moins tu vas prendre de risques, c'est une certitude. Plus tu as d'expérience, plus tu sauras gérer les situations difficiles. Alors après, il y a toujours une part d'incertitude. Un sérac qui s'effondre, une pierre qui débaroule, ça on peut pas l'anticiper, c'est difficile à anticiper. Oui, c'est vrai qu'il y a ce facteur risque, mais les activités, on va les faire. Enfin, je vais les faire parce que pour moi, c'est tellement beau de se retrouver au sommet d'une montagne ou à être dans des paysages exceptionnels, dans des lieux isolés, et à partager ça aussi avec des personnes que j'apprécie. Et on sait qu'il y a du danger, mais en même temps, ça crée de l'adrénaline. Et cette adrénaline, oui, elle est liée au danger. En tout cas, à la sensation de danger. Je suis déjà descendu dans des pentes très raides, assez engagées. Normalement, je sais faire. Voilà. Je l'ai déjà fait, faut pas être trop sûr de soi, faut jamais présumer de ses forces. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je maîtrise quand même. Donc c'est sûr qu'il peut y avoir du stress. Mais oui, c'est quelque chose qui est recherché aussi, ce stress. Alors j'ai un enfant depuis 7 mois. Je pense que ça a changé, oui. Par exemple, un couloir à ski que j'avais fait une fois. Et je l'avais fait, j'étais assez euphorique, j'avais pas eu vraiment de pression ou de stress. Je l'ai refait l'hiver dernier, après la naissance de mon enfant. Et j'étais pas dans les mêmes conditions psychologiques, j'étais plus stressé en fait. Donc je l'ai refait, certes, mais je pense que je ferais des choses moins engagées maintenant, si je compare à ce que je pouvais faire avant. C'est vrai que ça change aussi, on prend moins de risques. Yeah.